Bonjour, ici Clotilde Sey. Comment allez-vous? Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce vendredi pour vous présenter l'émission Le National qui vous permet d'entendre ou de réentendre des sujets, des entrevues qui ont été diffusées tout au long de la semaine sur nos ondes sur Canal M. Tout de suite, tiens, commençons avec Aime la vie, une émission que je connais bien, animée par mon camarade Kevin Breton et une émission à laquelle je participe avec grand plaisir. Et à cette émission-là, celle du 21 novembre, Kevin Breton, recevait la chroniqueuse Ingrid Alfred. Et Ingrid va nous donner des conseils, figurez-vous, pour bien gérer notre budget à l'approche des fêtes. On s'est dit que c'était vraiment d'intérêt national, ça, parce que coast to coast, comme on dit en bon français, il va falloir sortir le portefeuille et les cartes de crédit.
Noël arrive, qui dit Noël dit souvent cadeau, mais dit également réception, souper en famille. Il y a beaucoup de dépenses qui viennent au menu dans les prochaines semaines. Et on reçoit notre chroniqueuse Ingrid Alfred, spécialiste en finances personnelles, pour nous donner quelques idées sur comment budgétiser ces prochaines semaines qui peuvent parfois faire mal au portefeuille. Bonjour Ingrid.
Bonjour Kevin.
Est-ce que toi tu dépenses beaucoup à Noël?
Malheureusement quand même beaucoup, mais j'essaie d'y remédier.
Aujourd'hui, tu nous emmènes d'ailleurs des trucs parce que c'est possible quand même de succomber à la féerie de Noël sans nécessairement saigner à blanc son portefeuille.
Tout à fait. Alors oui, on peut offrir un beau Noël à sa famille sans laisser toutes les économies. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si toi, Kevin, tu es comme moi, mais moi, les lumières de Noël, waouh, ça me tente. Les décorations, ça me tente de toutes les acheter.
Ça t'émerveille.
Ça m'émerveille. Aussi, ça m'est déjà arrivé, les achats dernière minute. Puis aussi, le fameux stress lié au parfait cadeau. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi, on veut comme tout un « wow » quand on donne un cadeau. Alors, la problématique, c'est qu'on se met tellement de pression pour le temps des fêtes. Alors, quoi faire? C'est la question qu'on se poserait bien. Alors, c'est sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est qu'il faut connaître nos objectifs, c'est-à-dire combien d'argent on a pour dépenser.
Oui, parce que souvent, on se lance dans la dépense des fêtes un peu sur un coup de tête, mm-hmm. mais c'est pas une bonne idée de ne pas prévoir. C'est plate un peu de devoir se faire un budget pour Noël dans une fiche Excel, là, mais c'est une bonne idée, en fait, d'avoir un budget structuré.
Exactement. Alors, le budget, c'est tout simplement une permission de dépenser, mais de façon planifier. Alors souvent, on peut associer, comme tu l'as dit, pardon, le budget à quelque chose de négatif, comme si je me prive, mais bien mm-hmm. au contraire, ça nous permet vraiment d'avoir qu'est-ce qu'on veut sans dépenser un seul sou.
C'est un outil.
Exactement. Alors, pourquoi budgéter? On va budgétiser pour le temps des fêtes trois grandes catégories, les cadeaux, la nourriture, puis les activités. Mm-hmm. Alors voici quelques petits trucs pour vous. Trucs et astuces pour chacune des catégories. Alors, si on commence par les cadeaux. Diminuer le nombre de personnes à qui vous donnerez un cadeau. Alors, on peut, par exemple, décider pas de cadeaux entre adultes, juste pour les jeunes, les enfants.
Les enfants, ben oui, parce que c'est leur fête.
Exactement. Un autre point aussi, on peut utiliser les points accumulés sur nos cartes de crédit pour les échanger contre cadeaux. Carte cadeau, c'est le fun. On achète des cadeaux sans dépenser un seul sou.
Un seul sou dépensé. Oui, parce qu'on peut penser, par exemple, on peut acheter une boîte de chocolat très facilement dans une épicerie après avoir accumulé des points.
Effectivement.
J'y pense pas. Puis ça, c'est des points qu'on accumule à chaque année. Donc, à chaque Noël, on peut avoir un cadeau gratuit.
Exactement. Aussi, soyez créatifs. Pensez, c'est quoi votre spécialité? Pourquoi pas cuisiner votre spécialité au lieu d'acheter les fameuses bouteilles de vin? Mm-hmm. Quand on y pense, après une, deux, trois invitations, ça quand même, ça coûte cher.
Donc, tu conseilles quoi, une petite marmelade ou de la confiture?
Des beaux petits pots de confiture fait maison. C'est touchant parce qu'on a réellement pris le temps pour.
Puis il y a moyen de faire ça de manière, de faire avec une présentation esthétique pas très coûteuse. On se rend au Dollarama, on achète un pot maçon.
Ah
ouais, tout à fait.
Exactement. Et au niveau des activités, la dernière catégorie, rappelons-nous des beaux moments. Souvent, là, quand on va se rappeler des beaux moments, on ne va pas penser à un cadeau. Ce sera plutôt une ambiance, un jeu d'activité où que toute la famille est partie à rire. Mm-hmm. Donc, essayons de reproduire qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé. aussi prendre connaissance de la programmation de notre ville, quartier, aussi, pour les activités gratuites.
Souvent, les activités gratuites, mais des fois, c'est difficile de ne pas succomber parce qu'un marché de Noël, bon, c'est gratuit s'y rendre, mais une fois sur place, on a le goût d'acheter des tirs, puis on a le goût d'acheter des bonbons de Noël, puis...
C'est sûr, mais il faut essayer de se contrôler quand même. Il y a quand même on a accès quand même à un vaste panoplie d'activités.
Surtout si on est dans la région de Montréal, là, je pense qu'on est très gâtés.
Très gâtés.
Souvent, chacun des arrondissements ont leur propre activité familiale, très souvent aussi,
exact.
Qui sont offertes sans le moindre coût.
Exactement. Et comme dernière activité, mais non la moindre, le bénévolat.
Ah, c'est un excellent conseil. En terminant, est-ce qu'on peut quand même mettre un pourcentage sur combien d'argent on devrait mettre dans notre budget en début d'année? Est-ce qu'on le calcule en fonction de notre salaire ou on met un plafond?
Alors, les planificateurs financiers conseillent 1,5% du revenu annuel.
Oh, OK, bon, je ne savais pas. Si on gagne, par exemple, 25 000 $ par année, on aurait une dépense de 375 $ en faisant une petite règle de 3 rapidement.
Exactement.
Puis avec 375 $ il y a amplement d'argent si on est créatif pour gâter tout le monde.
Exact.
Merci beaucoup, Ingrid. Je te souhaite beaucoup de beaux cadeaux. À toi,
toi
à ta
aussi,
famille.
Kevin.
M'appelle à prendre le bord, m'exiler dans ce coin de pays où c'est beau d'être nulle part, admirer la beauté du silence qui s'effrite sous mes pas, les arbres qui bougent en cadence font valser mes tracas, je retournerai perdre en forêt, libre comme l'air, danser comme le vin, envoyer promener les heures, savourer le temps et tout laisser derrière. Les pieds dans le ruisseau, ma tête vogue, suit le flot. Mes chagrins.
L'émission des livres plein les oreilles me permettent de faire des rencontres littéraires assez fantastiques et celle-ci en est une. C'était dans l'émission du 16 novembre. Je découvrais la littérature de Michaela Nicole, N-I-C-O-L, qui nous offre notamment Les filles bleues de l'été, un des livres les plus lus dans les écoles et j'ai voulu savoir pourquoi. Dans Le Devoir, Daniel Lorrain écrivait, c'était le 10 janvier 2015, « Tout de suite, on est saisi. Point. Par l'intensité. Point. Sans comprendre vraiment de quoi il s'agit. Il y a bien un récit, mais qui sous-entend plus qu'il ne dit. Tout se passe comme derrière les mots, par allusion, allégorie. dans Les filles bleues de l'été, premier roman de Michaela Nicole, étudiante en littérature de 22 ans. Michaela, bonjour.
Bonjour.
Vous avez quelques années de plus maintenant.
Ben oui.
Hein, c'est ça, c'est mais ça à l'époque, vous aviez 22 ans.
Oui.
Quand vous l'avez sorti.
À la sortie du livre, oui.
Si vous me le permettez, parce que vous savez pourquoi j'ai choisi de citer Daniel Lorrain, parce qu'au moment où je lisais votre livre, je n'aurais pas pu trouver meilleur propos, meilleur mot pour dire ce que je ressentais à la lecture de Les filles bleues de l'été. D'abord, un petit retour en arrière pour que les auditeurs peut-être comprennent pourquoi je vous ai invité. Je suis tombée par hasard sur un papier dans un quotidien où on s'interrogeait sur que lisent les étudiants sur les bancs des cégeps, sur les bancs des universités, quels sont les livres que les professeurs de français, de littérature leur mettent entre les mains. Et évidemment, ça m'intéressait, hein, puis vu que j'anime cette émission-là, des livres pleins les oreilles, et j'étais sûre de trouver, et j'ai trouvé Edmond Rostand, j'ai trouvé Alexandre Dumas, j'ai trouvé, bon, Régent du Charme, j'ai trouvé... Et soudain, au milieu de tout ça, je vois Michaela Nicole pour Les filles bleues de l'été. Et là, je me dis, mais de quelle planète suis-je pour ne jamais avoir entendu parler d'un livre que lisent les étudiants au cégep et à l'université? Alors, curieuse comme je suis, j'ai tout de suite voulu en savoir plus. J'ai contacté votre maison d'édition, Le Cheval Doux, collection Coursière. Et puis, on m'a dit, mais oui, bien sûr, il faut l'inviter. J'ai dit, mais est-ce que c'est un livre pour les adolescents, pour les jeunes? Alors, ils m'ont dit, non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que c'est vraiment un livre pour les adultes, mais que les universitaires peuvent se mettre entre les mains, bien sûr. Et j'ai donc découvert ce livre, Michaela Nicole, que j'ai lu en 2 heures peut-être, parce que c'est une petite tablette.
Oui.
128 pages. Et j'en suis ressortie absolument bouleversée. Et je voulais commencer comme ça, cette entrevue, parce qu'il y a des fois où on adore, on aime, etc. Mais là, c'est plus que ça. Juste, tenez, quelques lignes pour vous donner la parole juste après, d'accord? Ça commence comme ça. Je m'appelle Clara et je veux qu'on entende dans mon prénom les éclats de cet été tombés sur le sol gelé. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, voulez-vous que je vous le relise? Je vous le relis. Je m'appelle Clara et je veux qu'on entende dans mon prénom les éclats de cet été tombés sur le sol gelé. Que mon nom sonne comme un brise-glace dans la stérilité de l'hiver qui s'en vient. Je lui dis, oh, voilà une plume. En avez-vous conscience, Michaela Nicole, de cette plume?
On m'en a beaucoup parlé, donc ça commence peut-être à rentrer finalement. ce qui est intéressant dans le cas de Les filles bleues de l'été, bon, c'était mon premier livre. J'avais 21 ans lors de l'écriture.
Vous étiez encore aux études littéraires?
Oui, j'étais à ma dernière année de bac, je pense. Donc, c'était une écriture, c'est sorti très, très spontanément. Et puis, cette écriture-là précise, donc très poétique, ne s'est pas reproduite depuis. Donc, j'ai encore un penchant pour ce genre d'image-là et tout, mais c'était comme un souffle très spontané, en fait. Ça a l'air un peu mystique de dire ça, mais c'est vrai, ça s'est passé très vite.
Très peu de corrections?
On a travaillé dans la structure, en édition, évidemment.
Ouais, ouais, ouais.
Mais moi, j'ai pas eu énormément d'essais-erreurs lors de l'écriture, je
vous dirais. Ah non, hein?
Ouais.
Alors donc, il y a ces deux jeunes femmes, hein, puisque c'est le thème. Il y en a une qui est une écorchée vive au sens propre, comme au sens figuré, hein, d'ailleurs, parce qu'elle se scarifie. Hein. Et puis il y a l'autre qui est un paquet de colère. C'est la colère incarnée.
Ouais.
Et ces deux femmes-là sont très amies. Et je vous laisse nous raconter la suite.
Ben, ça commence comme ça. En fait, les deux personnages s'appellent Clara et Chloé. Elles ne vont pas bien, de toute évidence. Et puis, elles parlent beaucoup. En fait, le récit alterne entre leurs deux voix. Et elles parlent beaucoup de l'autre, en fait. Donc, c'est comme si elles se regardaient dans un miroir, mais dans le miroir, elles voient leur ami. Et puis, elles racontent un peu l'histoire de l'autre et que ça s'alterne comme ça tout au long. Et donc, dès le début, elles décident d'aller s'expatrier en campagne ensemble dans un chalet où elles ont passé leur enfance, qui est le chalet des parents de Chloé. Et puis, elle passe comme ça un été, bon, un peu hors du monde, et puis le retour
beaucoup
à la réalité.
Hors du monde.
Oui, tout à fait hors du monde.
Et le retour à la source, à la terre. Enfin, ouais. J'ai des images lorsqu'elle marche, par exemple, pieds nus dans la terre, sur les pierres, où elles apprennent à marcher sans se faire mal, dans la mousse, dans les bois, elles s'allongent toutes nues. Elles vont puiser, finalement, la force dont elles ont besoin, l'une dans l'autre et dans la mère nature. Mm-hmm.
Donc, c'est ce qu'elles prétendent faire, c'est ce qu'elles avaient l'intention de faire, mais après, le retour à la réalité les rattrape quand c'est le temps de revenir en ville à l'automne.
Oui. Et là, bon, on n'aura pas besoin de s'étendre sur la fin. De toute façon, on s'en doute tout de suite au moment du retour. Mais bon, je vais laisser quand même le soin à chacun de s'y retrouver. Donc, il y a l'enragée et il y a celle qui se fait mal. Vous avez l'impression que beaucoup de gens vont se retrouver dans ces deux jeunes femmes-là. Parce que moi, j'ai eu l'impression que parfois, il y avait beaucoup de bouts de ma vie. C'est comme si on s'était déjà rencontrés. Et je suis sûre, je ne peux pas être la seule à penser comme ça, Michaela Nicole.
Oui, mais ça a été assez surprenant, en fait. C'est rare dans la littérature pour adultes que ça arrive. J'ai l'impression, ou peut-être pas rare, mais c'est moins fréquent que chez les adolescents ou chez les enfants. Mais j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de personnes que je connaissais pas. En fait, puis ça a duré plusieurs années. Donc, tu sais, la durée de vie d'un livre, c'est variable. Souvent, après quelques mois, ça commence à s'essouffler. Il y a beaucoup, beaucoup de parutions. Mais moi, ça a duré plusieurs années où j'ai reçu des messages régulièrement d'inconnus, surtout des filles.
Bon, mais surtout si c'est lu dans les écoles, je veux dire.
Oui, ben c'est ça, ça touche à un public, des fois, qui est là pour apprendre. Il y a beaucoup de pédagogie autour du livre. Donc, oui, on m'écrit souvent.
Vous n'aviez sûrement pas conscience, au moment de l'écrire, que ça irait si loin.
Non,
est-ce que vous pouviez imaginer, vous, étudiante en littérature, que vos livres se retrouveraient au milieu de ceux d'Alexandre Dumas et autres? C'est quand même, c'est toute une aventure.
Non, je pouvais pas vraiment imaginer. Mais en fait, moi, ce qui m'avait plus... j'avais une surconscience de la vie en librairie d'un livre. Parce que moi, ça fait 6 ans que je suis libraire. Donc, je vois les livres, comment ils évoluent. Je vois la vitesse à laquelle on les évince, on les remplace. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais convaincue que, bon, si on en parlait déjà, ça s'essoufflerait après un mois ou deux. C'est pas du tout ce qui s'est passé.
Alors, ces deux filles-là, permettez-moi simplement d'aller peut-être lire quelques extraits à droite et à gauche. Bon, il y a donc cette histoire de sauvetage mutuel, du moins ce qu'elles auraient souhaité être, un sauvetage mutuel. Et par exemple, en page 30 ici, « Un soir de crise, j'ai délivré mon amie de ses angoisses. Nous avons respiré ensemble jusqu'au plus profond de l'adolescence. Nous avons respiré jusqu'au fond du regard des autres. Je l'ai vu renaître. Chloé a crié avec une voix nouvelle. Elle a invoqué les esprits de l'été. Elle a dit « Nous allons survivre », défiant jusqu'à la haine cachée sous mes reins. Et nous avons couru. » Elles y croient. Hein? Et nous aussi, d'ailleurs, à un moment donné, on dit « Oui, allez, elles vont s'en sortir. » Parce que c'est vrai qu'on y croit à ce moment-là, à leur survivance, à leur renaissance.
Oui. Elles ont l'air de faire tout ce qu'il faut. Pour que ça marche. Elles s'aiment assez entre elles pour que ça marche. Mais c'est aussi un piège, en fait, qu'elles se sont tendues en allant seulement les deux ensemble s'isoler parce que les deux ne vont pas bien, finalement.
Non, c'est ça, exact. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, les pauvres chouettes. J'ai noté page... Ah oui, ça, c'est tellement beau. Page 34. Je me souviens plus où c'était, puis j'ai repensé à la chanson de... comment il s'appelle, M. Ferland, une chance qu'on s'a. Et à un moment donné, vous lancez très, très bien dans une phrase, « Nous nous avions ». Et j'ai trouvé ça tellement, tellement délicieux que je l'avais surligné. Je me disais aussi, avec une écriture pareille, vous n'avez pas envie d'écrire des chansons. Moi, il me semble que s'il y avait des musiques parfois là-dessus, là, ce serait fantastique.
J'ai jamais pensé, mais en fait, les films de l'été, à la base, c'était beaucoup des poèmes. Qui ont été mis en prose et on a mis de la chair autour de l'os. Mis.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça, ça a été versifié à plusieurs endroits. C'était pas des chansons, mais c'était des vers.
C'était des vers. Ben moi, je serais vous, là. Si vous connaissez quelqu'un, musicien, à côté de vous, vraiment, j'irais Oui, j'irai lui proposer ça. Ça ici, il ventait beaucoup, les arbres craquaient, l'eau était agitée de vagues, alors elles sont dans ce chalet. Ils ont persisté à ramer ensemble jusqu'au milieu du lac. Donc, il y en a une des deux, c'est Chloé, qui voit Clara, qui retrouve son amant, elle pensait qu'il l'avait abandonnée, parce qu'il faut dire que pour elle, il n'est qu'un amant, mais ce type-là a une femme dans la vie. Et donc, ils s'en vont faire un tour de barque, et Chloé est sur la grève, et elle raconte. Elle dit, les arbres craquaient, l'eau était agitée de vagues, ils ont persisté à ramer ensemble jusqu'au milieu du lac. J'ai vu l'embarcation s'éloigner sur l'eau trouble et l'expression solennelle de mon ami. Quand Clara a remonté sa rame dans sa barque et qu'elle a posé ses mains trempées sur les cuisses trempées de son amour, c'est lui qui s'est mis à parler et le visage de mon ami a coulé au fond de l'eau. C'est magnifique. Moi, je dis, il me semble que je mettrais ça en musique. Il y a cette page 89 aussi qui est terrible. Je précise que je viens seulement de recevoir la version papier et que j'ai lu le livre en version PDF et donc j'ai pas pu prendre de notes comme je le fais toujours sur mes livres. Mais lorsqu'elle recommence à tomber finalement à l'automne, lorsqu'elles s'en vont, elle quitte le lac, elle quitte le chalet et il y en a une qui dit « La soirée, bah c'est Clara. La soirée s'est mise à tourner d'elle-même. Le froid du dehors s'est mêlé au froid du dedans. Chloé est sortie des toilettes, elle est venue me rejoindre au salon. Nous buvions comme pour remplir un lac. » Et tout est comme ça. Tout est comme ça dans ce livre absolument merveilleux. Alors, voilà, Michaela, c'est pour cela que je voulais vous inviter. Je voudrais inciter les gens qui nous écoutent, les personnes non-voyantes. Ce livre est maintenant disponible via le SQLA. Les personnes voyantes, allez vous chercher ce livre. Il existe en poche maintenant.
Oui, c'est tout nouveau.
C'est vrai, c'est tout nouveau.
Donc, à l'automne, j'ai publié mon deuxième roman, Aphélie, à la même maison d'édition. Et par
Ophélie,
la même... Aphélie. Ouais. Et par la même occasion, on a fait Les filles bleues de l'été en format de poche.
Alors, Les filles bleues de l'été de Michaela Nicole, Nicole N-I-C-O-L. Michaela, merci beaucoup. Je vous en supplie, continuez.
Merci de m'avoir reçu.
Oh, de rien, Michaela. Puis continuez d'écrire.
Je continue, oui.
Je vous en supplie, parce que sinon, je vais avoir un gros manque dans ma vie. Dans quelques secondes, je vous lis les premières pages de ce livre à l'extrait du jour.
Un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas.
Je m'appelle Clara, et je veux qu'on entende dans mon prénom les éclats de cet été tombés sur le sol gelé, que mon nom sonne comme un brise-glace dans la stérilité de l'hiver qui s'en vient. Je ne peux pas pardonner aux jours d'avoir retrouvé leur captivité. Nous avions réussi à fuir la séquence, mais on nous a prises par la nuque pour nous déposer dans le courant. La vie est redevenue une rivière triste qui charrie nos morceaux de banquise. Le temps n'a plus le droit de s'arrêter pour qu'on le regarde dans les yeux. Le soir vient maintenant, au milieu de l'après-midi, symptôme de l'hiver qui tranche le monde. Les gens sortent, rentrent. Du fond de mon lit, je le sens, ce mouvement qui emporte mes amis, les hommes, mes parents. D'un même geste, nous restons vivants, réguliers. Il ne faut jamais s'inquiéter. Je passe des journées la tête dans les cauchemars. Quand vient la nuit, je prends racine dans des sols qui ne me ressemblent pas. Les grandes cages, les rendez-vous, dire oui et non, la bouche en forme de gouffre, et dire merci, plus que nécessaire, dire merci à mes geôliers. Dans les rêves, je ne peux plus bouger malgré le haut de mon corps qui veut aller par le vent. Je me réveille lorsque le soleil est déjà couché. Une petite honte me monte à la gorge. On nous a inculqué que chaque jour sert à construire le prochain. Et moi, je perds mon temps. L'automne s'est installé pour de bon. Là, je fais une petite ellipse. Je m'appelle Clara. Je suis épuisée de chagrin. Je suis lourde de haine. Je m'appelle Chloé et j'aimerais que mon nom, prononcé à voix haute, rouvre les cicatrices, qu'il rappelle l'haleine de la saison perdue. Le soir est tombé sur moi comme un bloc, je me suis laissé prendre de force. La campagne a agi comme une pause sur mes peurs, un souffle de pluie pour alimenter les fournaises de nos corps. La plus belle saison de notre vie au fond de la forêt la plus chaude que j'ai connue. Mais ce n'était qu'un répit. Aujourd'hui, les gens se sont mis en mouvement. Ils mènent l'existence que l'on voulait qu'ils mènent. De mon lit, j'ai senti ce temps morne porter mes amis, les femmes, mes parents. Cet été, j'avais découvert ce qu'était vivre, avec mes membres de filaments fragiles, ma peau de muqueuse mince, mes organes au tissu délicat. J'aurais pu sentir mon corps pour la première fois à travers ces fenêtres toujours ouvertes qu'étaient mes sens. Clara et moi retournerons dans la forêt, la plus chaude que nous n'ayons jamais connue. Et elles vont y retourner. Les filles bleues de l'été, c'est vraiment un livre à lire de Michaela Nicole. Je suis ravie encore une fois d'avoir rencontré cette jeune auteure. Restez des nôtres, je vous retrouve dans quelques minutes. Aime la vie. L'émission, d'ailleurs, est dorénavant présentée le mardi, hein, vous le savez, à midi. Elle est animée par Kevin Breton. J'y participe aussi assez régulièrement. Mais là, c'est Emmanuel Robitaille qui me remplaçait la semaine du 21 novembre. Emmanuel qui nous a proposé comme sujet l'inégalité des genres dans le monde de la recherche scientifique. Et c'était en compagnie de Maryse Lalonde, directrice scientifique du Fonds de recherche Québec.
Le Gender Summit, ou le Sommet sur les genres, existe depuis 2011. Ce sommet se penche sur l'inégalité des genres dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement, en concordance avec le 150e anniversaire du Canada et le 375e anniversaire de Montréal. C'est 700 personnes qui tentent de faire progresser l'égalité des genres dans ces domaines qui se sont rassemblées pour la première fois à Montréal, c'était du 6 au 8 novembre dernier, co-organisé par le Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, représenté par son directeur des programmes Serge Villemur, et par le Fonds de recherche du Québec. On a avec nous la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, Mme Maryse Lassonde, pour nous en parler. Bonjour, Mme Lassonde.
Bonjour, vous allez bien?
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Très, très heureuse de vous avoir avec nous.
Oui, ça me fait plaisir d'être là.
Vous avez votre baccalauréat en psychologie obtenu à l'Université de Montréal. Vous avez également un doctorat en psychologie obtenu à l'Université de Stanford en Californie. Vous êtes psychologue et vous avez été nommée directrice du Fonds de recherche du Québec en 2011, en même temps que le sommet. Quel beau hasard! Vous avez vu les deux côtés de la médaille, donc je trouve que c'est déjà une très, très bonne nouvelle d'avoir une femme à un poste aussi haut, hein, un poste de directrice pour une organisation aussi importante. C'est quoi la situation actuelle de l'inégalité des genres dans le domaine scientifique aujourd'hui?
Ben, écoutez, c'est que dans le domaine de tout ce qui est sciences naturelles, génie, mathématiques, tout ce qui est informatique, il y a une très, très, très grande inégalité. Les femmes ne sont pas présentes. Dans le fonds, par exemple, dans l'agence subventionnaire que moi je dirige, il y a seulement 20 % de femmes qui font des demandes de subvention. Alors, c'est vraiment parce qu'elles sont pas présentes et c'est malheureux parce que l'économie future, c'est vraiment une économie qui va être basée sur l'appropriation des sciences, des mathématiques et surtout de l'informatique.
Mais c'est l'avenir. Et comme vous l'avez dit, ça englobe tous les autres domaines. Et là, vous me dites qu'il y a une femme sur cinq qui est présente.
Tout à fait.
En termes de présence, mais quand on parle d'obtenir les subventions à ce moment-là, est-ce que vous voyez une différence entre les hommes et les femmes une fois qu'ils sont dans leur position de chercheur?
Pas du tout. Le taux de succès est le même. C'est 50 % la même chose. Les hommes et les femmes réussissent tout aussi bien, mais on ne reçoit pas de demandes de femmes ou très, très peu. Mais celles qu'on reçoit sont excellentes, tout au moins aussi bonnes que celles des hommes.
Donc, du moins, leur crédibilité n'est pas remise en cause une fois qu'elles y sont, mais s'y rendre est plus compliqué. Cette année, le sommet avait comme thème « Adopter le pluralisme et prospérer grâce à la diversité, façonner les sciences et l'innovation ». Qu'est-ce qu'on entend par pluralisme et diversité? Parce que j'ai l'impression que ça va bien au-delà des genres.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a d'autres groupes aussi qui ne progressent pas du tout en sciences. On compense simplement aux peuples autochtones, donc eux aussi ne sont pas présents en sciences.
C'est une réalité.
Donc, on avait fait. Oui. Oui, c'est une réalité. Et eux aussi doivent avancer à travers les sciences et faire leur place dans la société à travers ça. Mm-hmm. Non seulement eux, mais on avait aussi une session plénière sur toute la communauté LGBTQ2, parce que eux également, dans un monde, vous savez, comme le monde des sciences pures, des mathématiques, du génie, très souvent, on a le portrait d'un homme blanc ou asiatique, très, très hétérosexuel, en fait, et puis donc pas d'autres modèles. Hein.
Un gros stéréotype, là.
C'est un gros stéréotype, mais c'est aussi parce que c'est le modèle existant. Et donc, pour la communauté LGBTQ, c'est la même difficulté que pour les femmes, c'est-à-dire faire leur place dans une communauté qui est majoritairement composée d'hommes qui ont donc une attitude assez spécifique.
Effectivement. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'identité de genre est également un problème et peut miner la vocation ou l'expansion de la compétence d'un individu, ce qui est quand même inquiétant.
Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que, on le sait maintenant, il y a des études qui l'ont montré, très souvent, les gens qui viennent de ces communautés-là ne voudront pas du tout parler dans leur milieu de travail de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, parce qu'ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur aussi que ça nuise à leur progression, à leur promotion, et donc ça crée chez eux, très souvent, vous savez, dans le milieu de travail, on peut se sentir anxieux, et ça peut provoquer l'abandon même d'une carrière.
Oui, parce que c'est pas comme si on passait pas une très, très grande partie de notre temps au travail, ça doit être un moment ou un lieu où on peut s'épanouir.
Tout à fait, se sentir à l'aise dans ses choix personnels, puis tout autant que dans les choix professionnels, et c'est pas le cas pour le moment.
Je vous entends complètement. Je veux aborder absolument la charte Athena Swan, qui était un autre but du sommet cette année. Cette charte a été élaborée en Grande-Bretagne, déjà adoptée en Australie. En pourparlers chez nos voisins américains, c'est quoi cette charte-là et qu'est-ce que le Canada veut faire avec cette charte-là?
Bon, voilà, c'est que, justement, au Royaume-Uni, les agents subventionnaires ont décidé de pousser pour l'égalité, pour l'inclusion au niveau des établissements universitaires qui finançaient. Alors, ils ont établi une série de bonnes pratiques et puis c'est devenu maintenant, si on veut, ça fait partie d'une charte, toutes ces bonnes pratiques et les institutions universitaires, pour recevoir du financement, doivent démontrer qu'elles ont des politiques valables d'inclusion de la diversité et puis il y a maintenant des façons d'adhérer à ces politiques en rentrant dans en se faisant si on veut
reconnaître,
par cette charte-là. Donc, il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez rentrer au niveau bronze, vous pouvez augmenter au niveau argent, au niveau or. Mais donc, c'est quand même assez difficile. Et puis, il y a un examen qui est refait à toutes les 3 ans pour être sûr que la certification est toujours valable. Et ça a vraiment donné lieu à des avancées incroyables parce que maintenant, il y a de l'équité, non seulement au niveau de l'embauche des professeurs, mais également au niveau de l'embauche du personnel. Ils ont adapté aussi les milieux pour que ça soit, pour que la conciliation famille-travail soit beaucoup plus agréable. Donc, wow. Des garderies dans les milieux, toutes sortes de choses comme ça qui ont permis finalement d'avoir vraiment une meilleure atmosphère dans les milieux de recherche et milieux universitaires.
Mais absolument. Puis ce qu'on voit aussi, puis c'est merveilleux parce qu'on voit que ça fonctionne, que c'est efficace, que les institutions universitaires, les instituts universitaires veulent cette certification-là. Elle est bien vue et on la veut.
C'est très bien vu. Absolument, c'est très bien vu. Et non seulement c'est bien vu par les universités, mais maintenant, les départements des universités veulent avoir leur propre charte à ces financements, veulent aussi avoir leur reconnaissance. Ils ont réalisé finalement que les conditions de travail étaient bien meilleures, que les conditions de vie étaient meilleures aussi. Et donc, c'est vraiment un grand succès. Puis, c'est en train d'être employé, comme vous l'avez bien dit. Maintenant, ça s'est répandu en Irlande, en Australie. Et les États-Unis et le Canada regardent également très attentivement pour adhérer à cette charte-là.
Et justement, c'est ce que je veux emmener et on va terminer là-dessus. On va parler de délai. Madame Lassonde, j'aimerais savoir, le Canada se donne combien de temps pour appliquer ces nouvelles stratégies-là d'inclusion et qu'est-ce qu'on s'attend du sommet sur les genres dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on voit avancer?
Ben, pour moi, ce serait superbe si on pouvait avancer très vite dans l'adhésion à ce programme-là, Athénaïs One. Université Canada, qui est un grand regroupement de toutes les universités du Canada, veut aussi y adhérer, mais c'est évident que pour changer et faire accepter ça au niveau local, au niveau provincial, parce que l'éducation, c'est quand même de juridiction provinciale, ça va prendre quand même un certain temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce temps-là devienne très, très court. Et puis, c'est sûr qu'au Québec, on a une volonté par la vice-première ministre et la ministre de la Science, Mme Dominique Andelade, elle pousse très fort pour que l'on puisse y adhérer le plus rapidement possible.
Parce qu'elle comprend bien l'enjeu ici. Et dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on veut pour les femmes dans ces milieux?
Bon, pour les femmes, mais pour toutes les autres minorités qui ont des difficultés, oui. je souhaite vraiment que chacune puisse faire sa place dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'administration aussi, dans le domaine des finances, parce qu'il y a des domaines aussi où il n'y a pas assez de représentation de la diversité. Donc, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. On va y travailler très fort.
Madame Lassonde, merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Y'a quelqu'un qui croque mon cœur, y'a quelqu'un qui crie mon nom. Les petits soldats de peur marchent à moi en bataillon. Tout le jour je vous réponds par la bouche de mes canons. Tous les soirs je me recouche, le canon loin dans la bouche. Et j'attends que l'aube arrive. Et j'attends que l'aube arrive. Et j'attends que l'aube arrive. Jusqu'à ce qu'amour s'ensuive. Y a des yeux plein d'aventures, y a des jeux beaucoup, beaucoup. Mais la peur au coin du mur lâche sur moi son chien fou. Oui, parfois la joie me heurte dans les fuites, les fêtes, les flirts. Les médailles que je voulais pendent là comme des boulets. Et j'avance à la dérive. Et j'avance à la dérive. casque amour sans suivre. Sur toi la peur, j'ai fait mes griffes et je te porte partout comme une ceinture d'explosifs ou un bébé kangourou. Sur toi la peur, j'ai fait mes griffes et je te porte partout comme une ceinture d'explosifs ou un bébé kangourou.
On reste dans la même émission, celle du 21 novembre, Aime la vie, toujours animée par Kevin Breton. Kevin qui, cette fois-ci, s'est entretenu avec le professeur Stéphane Bouchard, qui est cofondateur du laboratoire de cyberpsychologie de l'Université du Québec en Outaouais, au sujet du potentiel de la réalité virtuelle dans le traitement de la maladie mentale. Ça vaut le coup de réécouter cette entrevue.
On entend de plus en plus parler du potentiel de la réalité virtuelle dans le domaine médical. Il y a par exemple des chercheurs qui utilisent cette technologie-là pour soigner les douleurs fantômes que peuvent ressentir les personnes amputées. Le potentiel ne s'arrête pas là. Il pourrait même venir en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. On rejoint au bout du fil Stéphane Bouchard, professeur au département de psychoéducation et psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Monsieur Bouchard.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord à nous, néophytes, parce que vous êtes également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique, c'est quoi exactement la cyberpsychologie?
La cyberpsychologie, de façon large, là, c'est l'étude du cyberespace ou d'un monde numérique artificiel recréé par l'informatique. Mais de façon plus concrète, on peut voir les exemples, par exemple, de la réalité virtuelle, où l'utilisateur, l'usager ou le client met ses lunettes et se retrouve dans un environnement 3D relativement ou extrêmement réaliste. Et quand on bouge la tête, quand on tourne alentour de soi, on se déplace, bien, l'environnement suit nos déplacements comme si on était pour de vrai. Et le psychologue ou le professionnel de santé mentale à l'écran à côté voit sur son écran ce que le client voit, ce qui nous permet de créer des contextes standardisés, mais qui se veulent chargés d'émotions à des fins thérapeutiques.
Et puis bon, l'image qu'on a souvent de la réalité virtuelle, vous l'avez mentionné, c'est l'exemple des lunettes que l'on porte, mais vous, à l'Université du Québec en Outaouais, vous allez plus loin avec une voûte immersive carrément, une espèce de cube. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est d'autant plus immersif que de porter de simples montures.
Tout à fait. Les environnements qu'on développe depuis 1999 ici à Gatineau couvrent l'ensemble du spectre des technologies possibles. On parle là, du visiocasque facilement disponible jusqu'aux voûtes, aux cubes immersifs de grande dimension là, où tu es debout. C'est le holodeck de Star Trek, en fait. Tu es debout, il y a des images qui sont projetées sur les murs de toutes les faces, sont projetées en stéréoscopie, donc en 3D, et les objets flottent devant toi. Ce qui est intéressant à la voûte qu'on possède ici à l'UQO, c'est que les images sont projetées sur les 6 côtés, c'est-à-dire que le plafond, le plancher et la porte d'en arrière lorsqu'on ferme. Et donc, on est complètement immergé dans les environnements virtuels. Des voûtes à 6 faces comme ça, il y en a 10 dans le monde. Et la seule qui est dédiée à la santé mentale, c'est ici au Canada et à Gatineau que ça se passe. Parce que justement, on peut complètement bluffer le cerveau pour se donner l'impression qu'on est dans cet endroit virtuel-là.
Bluffer le cerveau, je pense que c'est le bon mot. Puis en ayant une voûte comme ça, il y a même moyen d'ajouter à l'expérience sensorielle, pas seulement avec la vue, mais également l'audition, le sens du toucher. Vous me parlez de mettre en contexte avec différents troubles psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment la réalité virtuelle pourrait venir aider quelqu'un à combattre une phobie, par exemple?
Oui, mais dans le cas des troubles, tous les troubles anxieux, phobie ou autres, l'ingrédient essentiel, et on sait que c'est vrai depuis une vingtaine d'années, là, c'est d'apprivoiser nos peurs progressivement. Et l'art de la psychothérapie, c'est de savoir comment le faire. Mais il faut apprivoiser nos peurs, alors qu'en réalité virtuelle, bien, on peut mettre nos lunettes, puis le psychologue, ça ne change pas la nature de sa thérapie. C'est juste que lorsqu'arrive le moment d'apprivoiser nos peurs, des araignées, des endroits clos, des hauteurs, des vols en avion, de parler en public ou n'importe quel trouble anxieux, bien, on met nos lunettes, puis là, on se retrouve dans cette situation-là, dans un restaurant où il y a des gens, puis on peut interagir avec des personnages virtuels ou dans une maison où sur le comptoir, il y a une araignée. Donc, le psychologue ou le professionnel en santé mentale peut assister son client pour apprivoiser ses peurs, mais dans la sécurité du bureau, au rythme qu'on a besoin, sans brusquer les choses.
La réalité virtuelle a ce luxe de permettre, en fait, un contrôle sur les phobies, ce qui fait en sorte qu'on ne confronte pas nécessairement quelqu'un à une peur de l'avion, à des turbulences en plein vol. On va y aller graduellement avec un vol ou même une entrée dans l'aéroport pour commencer.
Absolument, et c'est ça le plus gros avantage, c'est que c'est plus simple pour le professionnel de santé mentale de doser ce qu'on va faire vivre vraiment au rythme du client. Ça peut être moins coûteux également, parce que si on parle des vols en avion, le client il a pas besoin de se déplacer et lui et moi prendre l'avion. Puis on peut faire des choses qui sont plus agréables dans l'intimité du bureau, par exemple, justement, parler en public. Bien, j'ai pas besoin de recruter un public, ce qui pourrait impliquer des bris de confidentialité, alors que là, je suis avec mon bureau, dans le client ses lunettes. Puis si on enlève les lunettes, bien, on est juste tous les deux ensemble. Obsession-compulsion, stress post-traumatique, même chose. On est toujours dans le bureau et on peut faire vivre les choses au rythme où c'est nécessaire.
Donc, ce n'est pas de la science-fiction. On applique vraiment les mêmes notions de psychologie habituelle, mais avec un nouveau procédé, un nouvel outil qui est la réalité virtuelle.
Absolument, parce qu'il faut comprendre que l'ingrédient intéressant, au fond, c'est d'être capable de berner le cerveau et d'utiliser le fait que les émotions réagissent un petit peu plus rapidement que la logique, quelques millisecondes à l'avance. Donc, si on a les bons indices qui permettent de stimuler les émotions vont se déclencher et prendre toute la place chez l'individu, chez le client ou la cliente, même si les gens vont dire « c'est pas logique parce que c'est virtuel », oui, mais c'est pas grave, les gens aussi ils savent que leur peur, quelque part, elle est un peu exagérée, mais malgré tout, ils ont peur. Alors en virtuel, on a la même relation, on a l'équivalent, c'est-à-dire que même si les stimuli sont virtuels, les émotions, elles, sont réelles.
Permet de contrôler un peu plus l'irrationnel. Également, ben, c'est étudié depuis quand même quelques années, cette idée-là que la réalité virtuelle peut venir en aide pour combattre les phobies ou les troubles obsessifs compulsifs. Mais est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin en l'utilisant pour, par exemple, combattre la déprime ou une dépression ou des cas plus majeurs?
Bien, on voit de plus en plus là, un foisonnement des applications de la réalité virtuelle. Des troubles anxieux, vous mentionnez les symptômes de membres fantômes. On commence à avoir des applications pour la schizophrénie, les troubles alimentaires et des évaluations en neuropsychologie, en neuropsychiatrie. Et on s'en va aussi vers les troubles d'humeur, par exemple, les maladies bipolaires, les troubles de personnalité limite. C'est à la fine pointe de ce qui se développe dans les laboratoires, donc c'est pas toujours immédiatement disponible, comme c'est le cas pour nous avec les troubles anxieux, parce qu'on peut effectivement se procurer des environnements virtuels, pas les clients, mais les professionnels pour faire de la thérapie, mais des trucs pour la dépression et d'autres applications, je vous dirais, dans quelques années. On est encore dans le développement.
Grâce à votre expertise et celle de vos collègues, l'Outaouais est en train de se bâtir une petite réputation de plaque tournante de recherche sur la réalité virtuelle et vous allez même accueillir l'été prochain à Gatineau un congrès sur la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot en terminant?
Bien, tout à fait. Du 26 au 28 juin, on reçoit le congrès ou l'Association internationale de cyberpsychologie, si je peux résumer ça ainsi. Et on va recevoir entre 300 et 500 chercheurs d'un peu partout dans le monde. Et les gens, s'il y avait des auditeurs qui font de la recherche dans le domaine, ils sont bienvenus pour soumettre des résumés. Et puis, il va y avoir des ateliers de formation. Il y a peut-être certaines activités ouvertes au grand public. Mais les dates à retenir, c'est du 26 au 28 juin à Gatineau, événement international de sciences sur la cyberpsychologie.
Oui, on sait qu'il y a d'autres universités au Québec, notamment à l'UQTR, qui fait des recherches sur le sujet. Merci beaucoup, M. Bouchard, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment apprécié.
Ça fait plaisir.
Oiseau se meurt au pays des fleurs de la France. Les oiseaux se meurent, qu'en est-il de la chance? Les oiseaux se meurent par le coup de la lance. Les oiseaux se meurent, qu'en est-il de la chance? Qu'en est-il de la chance? Les jours ensoleillés, des amours de vacances pour les cœurs abîmés, qu'en est-il de la chance ?
aurait-on oublié quelque part par méfiance, par mauvaise volonté? Se meurent au pays des fleurs de la transe. Les oiseaux se meurent. Qu'en est-il de la chance?
Tous les jours de la semaine, Hélène Denis vous propose les paractualités. Et dans ces paractualités, il y a toujours des sujets fort intéressants que nous pensions essentiels de vous rediffuser dans le cadre de cette émission Le National. Alors voici quelques sujets évoqués par Hélène Denis cette semaine.
Dans l'actualité.com, un groupe de revendications nationales presse le gouvernement canadien de révoquer un critère d'immigration qu'il estime discriminatoire envers les personnes vivant avec des handicaps. Le Conseil des Canadiens avec déficience demande le retrait d'une disposition qui empêche les immigrants handicapés de s'installer au Canada en raison du fardeau excessif qu'ils représentent pour le système de santé. Le groupe argue qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire basée sur des idées dépassées et stéréotypées concernant les handicapés. Le Conseil demande au gouvernement de modifier la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en s'assurant que les personnes handicapées fassent partie d'une nouvelle vision plus inclusive des politiques d'immigration. Le Conseil des Canadiens avec déficience fera valoir son point de vue cette semaine devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes. Le comité étudie présentement le critère d'admissibilité médicale pour les nouveaux venus et tiendra des consultations cette semaine pour entendre les différents points de vue sur la question. Le premier ministre du Conseil, John Ray, remarque que les groupes de défense des personnes handicapées ne sont que rarement consultés lorsque de nouvelles réglementations sont développées, ce qui fait en sorte que des changements doivent souvent être apportés par la suite. En plus d'être discriminatoire, cette clause est extrêmement dénigrante puisqu'elle assume que les personnes avec des handicaps sont intrinsèquement un fardeau pour la société, s'indigne M. Ray. Nous rejetons cette idée. Le coordonnateur national du Conseil, James Hikes, rappelle que la ratification par le Canada de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées aurait dû corriger ce problème. Hélas, c'est loin d'être le cas. Personnes handicapées, les oubliés du gouvernement Notley en Alberta, c'est sur le site de Radio-Canada. Je vois des gens seuls, isolés, des gens en crise sous ce gouvernement, dit Leah McRory en retenant ses larmes. Des larmes de colère et de frustration face au traitement que réserve le gouvernement albertain aux personnes handicapées intellectuelles, un silence qu'elle perçoit comme un abandon. Il y a un mois, cette Edmontonienne, mère de deux adultes handicapés, a vécu une crise familiale. Elle a demandé 5 heures additionnelles de soins au programme provincial qui offre des ressources personnalisées aux personnes déficientes intellectuelles et à leurs familles. Sa demande a été refusée. Son exemple, dit-elle, reflète un système en crise. Il y a une foule de personnes sur liste d'attente. On leur offre quelques heures pour faire diminuer les listes, mais si vous saviez à quel point quelques heures sont inutiles. Ce qui enrage cette mère, ce n'est pas seulement ce qu'elle voit comme les problèmes criants, mais surtout que les solutions sont connues depuis longtemps. En décembre 2015, le ministère des Services à la personne a lancé des consultations sur les normes nécessaires pour assurer la sécurité des personnes handicapées intellectuelles. Plus de 2000 personnes y ont participé. Les deux premières recommandations appellent à un examen en profondeur du programme accompagné d'une meilleure communication avec les communautés handicapées. Mais plus d'un an plus tard, aucun examen n'a été entamé. Beaucoup d'attentes avaient été placées dans ce gouvernement néo-démocrate, pour l'instant déçu. La Commission de transport de Toronto demande 37,6 millions de plus pour 2018. C'est sur le site de Radio-Canada. La Commission de transport de Toronto a publié ses demandes budgétaires pour l'an prochain. L'agence municipale demande à la Ville une augmentation de sa subvention de 36,9 millions de dollars et un autre de 700 000 dollars pour Wheel-Trans ou Wheel-Trans, son service de transport pour les personnes handicapées. Elle propose de maintenir les services actuels, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas amélioration dans les services aux usagers et aucune hausse des tarifs l'an prochain. La Commission de transport de Toronto note qu'elle ne peut pas respecter la directive du conseil municipal qui demande à tous les services et agences de ne pas augmenter leur budget par rapport à 2017. L'agence de transport dit qu'elle n'a aucune nouvelle source de revenus et que ses coûts augmentent en raison de certains changements législatifs et de décisions prises antérieurement. La CTT prévoit que le nombre d'usagers passera de 536 millions à 539 millions l'an prochain.
Voilà, j'ai tout juste le temps de remercier tous mes camarades et tous ceux qui participent à cette émission. Jean-Sébastien à la Liberté, Mathieu Tessier, Hélène Denis, Kevin Breton, Emmanuel Robitaille, Benoît Racette, Anne-Laure Janson, Christiane Campagna, Marc Britant et moi-même, Clotilde Seille. Je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine.